הוא היה אומר, אין בור ירח ולא אמר עץ חסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, ולא כל אמר בבשרוה מרקים. ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. Il nous disait, il nous enseignait, il nous est enseigné plus exactement, que l'ignorant n'a pas peur de la faute et que l'homme ordinaire ne peut pas être un chassid, il ne peut pas être un saint. Celui qui est timide ne pourra pas apprendre et celui qui n'a pas de patience, qui est coléreux, ne pourra pas enseigner. Ceux qui font beaucoup de commerce, qui s'adonnent à beaucoup d'occupations, ne pourront pas devenir des sages, ils ne pourront pas s'assagir. Enfin, le dernier enseignement, là où il n'y a pas de personne digne d'être des hommes, soit un homme à leur place. Toi, sois l'homme en question, sois l'homme de la situation. Nous allons donc essayer de reprendre un à un ces enseignements qui, chacun d'entre eux, revêt une signification particulière et qui est très importante pour nous. La première partie de la Mishnah nous dit la chose suivante. L'ignorant n'a pas peur de la faute et l'homme ordinaire n'arrivera pas à la sainteté. Il ne sera jamais un chassid. Il y a ici un rapport étroit entre ces deux enseignements. En général, on traduit le terme de « amaharetz » par « ignorant ». Ici, dans cette Mishnah aussi, on emploie le terme de « amaharetz », mais pas pour dire « ignorant », pour dire « l'homme ordinaire », l'homme que nous sommes. Celui qui se trouve un petit peu au milieu, sans être en bas de l'échelle, sans être non plus, sans parvenir non plus à des sommets de spiritualité. Et c'est ici que la Mishnah nous dit que celui qui est tout en bas de l'échelle, qui est vraiment un ignorant parfait, eh bien, il n'aura pas peur d'être de la faute. Nous expliquent les commentaires qu'ils peuvent arriver effectivement à faire les fautes les plus graves. Dans la mesure où il n'a pas en lui aucune étude, qu'il n'étudie pas, qu'il n'a pas non plus de qualité minimale qui lui permet d'être un homme et de savoir se conduire parmi les hommes, alors rien en fait ne l'empêchera de fauter. Le Maharamchik, ici, dans ce contexte, nous ramène une Mishnah précédente que l'on avait déjà ramenée et qui nous disait que celui qui travaille du fait même de son travail, alors il en viendra à ne pas fauter. Le Maharamchik nous dit que ça s'applique également ici pour l'ignorant. L'ignorant, effectivement, celui qui n'a aucune étude en lui, qui n'étudie pas du tout, et qui bien non seulement n'a aucune étude, mais il ne possède même pas en lui les qualités nécessaires, parce qu'on peut trouver quelqu'un qui, tout en n'étudiant pas, ait quand même en lui des qualités minimales qui lui permettent de se conduire bien et de vivre parmi les hommes. Mais celui qui n'a ni l'un ni l'autre, et qui donc qui correspond à cette définition de l'ignorant, celui-là, effectivement, pourra malgré tout, ainsi que nous explique le Maharamchik, ne pas faire de fautes très graves dans la mesure où il travaille. Ça veut dire quoi dans la mesure où il travaille? Dans la mesure où il est occupé, qu'il doit faire autre chose, qu'il doit rapporter un salaire à la maison, alors il pourra effectivement, de ce fait même de son occupation, de ses occupations, ne pas faire de fautes graves. Mais ici, nous souligne le Maharamchik, le fait qu'il ne fasse pas de fautes graves n'est pas dû à sa personnalité, ça n'est pas dû à son être, ça n'est absolument pas dû au fait qu'il est prévenu contre le fait de faire des fautes graves et de faire des avérotes. C'est dû uniquement à quelque chose de contingent, quelque chose d'accidentel. C'est juste dû au fait qu'ayant beaucoup de travail, étant beaucoup occupé, devant subvenir aux besoins de sa maison, alors il n'aura pas le temps de faire de fautes. Il est évident que cette solution-là n'est pas la bonne solution, parce que le fait qu'il ne fasse pas de fautes graves est dû à un facteur tout à fait contingent, tout à fait accidentel, qui n'est pas lié à sa personnalité elle-même, et puis qui peut à chaque moment venir à disparaître. Alors que celui qui ne fait pas de fautes graves, parce qu'il est prévenu contre de telles fautes, du fait de sa personnalité, du fait de son niveau d'études, du fait de choses qui sont inhérentes à lui, celui-là, quelles que soient les circonstances, ne sera jamais amené à faire de fautes. Or, celui dont nous parlons ici, le bor, l'ignorant, celui qui n'a pratiquement rien pour lui, si ce n'est que son travail et ses occupations, celui-là est en grand danger de fauter à n'importe quel moment, et non seulement lui, mais également son entourage, qui peut à chaque moment subir ses sévices et devoir subir les conséquences, n'est-ce pas, des fautes qu'il ferait. L'âme arrête, ce que nous traduisons ici par l'homme ordinaire, c'est déjà un degré de plus. Les commentaires nous disent que l'on parle ici d'un homme qui a déjà certainement certaines qualités nécessaires, qui même en n'étudiant pas, ne sera de toute façon pas amené à faire des fautes que pourrait faire le premier, parce qu'il a quand même en lui un minimum, on ne serait ce que dire, de dédication ou de qualité. Mais celui-là, cet homme ordinaire, cet âme aretz, ne pourra pas parvenir au niveau de la chassidout, au niveau de la sainteté. Nous délumérie que cette définition qui s'applique à la plupart des gens que nous sommes, qui s'applique à l'homme ordinaire, englobe également celui qui passe la majorité, n'est-ce pas, de son temps à ne pas étudier, soit qu'il a des occupations qui prennent plus de place, et puis qui finalement réserve à l'étude un temps minimum. Alors celui-là, effectivement, ne pourra pas arriver à la chassidout, ne pourra pas arriver à cette dimension de sainteté. Pour arriver à la chassidout, le Meiri nous dit, il n'y a pas d'autre possibilité que celle de consacrer la majorité de son temps à l'étude de la Torah, ou au moins la majorité de ses efforts, la majorité de son énergie. À ce moment-là, on pourra arriver au niveau de chassidout, au niveau de sainteté. Évidemment, on peut toujours poser la question, du moment que je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas besoin d'être un grand chassid, je n'ai pas besoin d'être un grand saint, d'être au-delà de la moyenne. Si je suis dans la bonne moyenne, ce qui est le cas de l'homme ordinaire, pourquoi finalement aller plus loin? Là, au-dessus encore, les commentaires nous répondent. La Torah nous demande d'arriver au maximum. Elle nous demande d'arriver au maximum de ce à quoi nous pouvons nous arriver. De ce à quoi nous pouvons arriver. Imaginez, tout simplement, oui, dans la vie de tous les jours, un homme qui réussit à avoir un bon salaire. Il ne reculera pas devant la possibilité d'avoir un meilleur salaire, d'avoir de meilleures conditions de vie, même si les conditions qu'il a sont déjà satisfaisantes. À plus forte raison, nous disent nos sages, en est-il pour les choses spirituelles. Si effectivement j'arrive à une certaine madriga, à un certain niveau spirituel, je ne dois pas m'en contenter dans la mesure où je peux arriver plus loin. Malheureusement, c'est cela la vie. La vie, c'est souvent, dans le matériel, on cherche toujours à aller plus loin, à pousser plus, à avoir de meilleures conditions. Dans le spirituel, on se dit, je suis déjà quelqu'un de bien, pourquoi finalement pousser plus loin? La vérité, c'est que notre attitude doit être en vérité le contraire. On doit toujours pousser plus loin dans la spiritualité. Dans le matériel, nos sages nous disent qu'on ne doit pas nécessairement se sacrifier, faire de sacrifices et se contenter de moins ce dont on a besoin pour vivre. Au contraire, la Torah ne nous dit pas ça, elle ne pousse pas à cet ascétisme. Mais une fois qu'on est arrivé au niveau matériel suffisant, on n'a pas besoin de pousser plus loin. Là où il faut pousser toujours plus loin, aller toujours plus loin, c'est dans l'étude de la Torah, c'est dans la pratique des mitzvot, c'est dans le fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Là, on ne va, pour ainsi dire, jamais assez loin. Il faut pousser toujours plus. Nous dit la Mishnah, le Pirkei Avot, que celui qui est timide ne peut pas apprendre. Ou en tout cas, il ne peut pas arriver à un réel niveau d'étude dans la Torah. C'est qui celui qui est timide? C'est tout simplement celui, nous disent nos sages, qui n'ose pas poser de questions, qui se gêne pour poser des questions. Il peut avoir une attitude de respect par rapport à nos sages, par rapport à nos maîtres. Il se dit « qui je suis pour les déranger ? Qui je suis pour les embêter ? Je ne suis pas assez intelligent, ma question n'est pas vraiment une vraie question, je ne vais pas les importuner avec de telles questions. » Il s'agit donc finalement en apparence d'une qualité. D'une qualité. Or, nous dit Rabbi Nouyona, cette qualité, on peut la voir, et elle est bien, cette qualité de la timidité, dans tous les domaines, sauf dans un seul, dans celui de l'étude de la Torah. Quand on touche à l'étude de la Torah, il faut être tout sauf timide. Dans le reste, il faut être timide. Avoir un minimum de correction, un minimum de discrétion, ne pas toujours essayer de pousser le bouchon là où on n'a pas lieu de le faire. Dans l'étude, c'est le contraire. Même si on pense que notre question ne vaut pas la peine d'être posé, même si on a peur de déranger, il faut aller plus loin, parce qu'autrement on ne pourra jamais étudier, surtout on ne pourra jamais réellement comprendre et arriver au niveau de compréhension qui est requis par la Torah. Évidemment, nous dit Rabbi Nouyana, cela ne veut pas dire qu'il faut poser n'importe quelle question, n'importe comment. Il faut évidemment réfléchir, essayer de faire en sorte effectivement que notre question puisse nous apporter un certain avantage, que l'on puisse tirer bénéfice des réponses que l'on aura aux questions qu'on pose. C'est pour ça qu'on ne va pas poser la question en premier venu, dans n'importe quelle condition. Et c'est pas non plus, ici, on n'a pas non plus l'autorisation de faire n'importe quoi. Mais une fois que l'on pense qu'on a une réelle question, alors il faut y aller, il faut foncer, il faut poser la question et ne pas s'arrêter sous toutes sortes de fausses attitudes, n'est-ce pas, des attitudes de fausse modestie, des attitudes de, on pourrait dire ici, de fausse timidité. Évidemment, encore une fois, l'attitude de l'être commun, de l'être ordinaire que nous sommes, c'est de faire le contraire. C'est souvent d'être timide dans l'étude, mais par contre, dès qu'il s'agit d'avoir un petit peu d'argent ou d'avoir un avantage quelconque dans quoi que ce soit, alors au contraire, là, on pousse et on va être le premier. Là encore, vient nous dire le Pirkei Avot, ce n'est pas cela qu'il faut faire, c'est le contraire. Il faut savoir se mettre à sa place dans tout et partout, juste quand il s'agit de l'étude et que l'on a une question, à ce moment-là, il faut foncer. Et le Raphaïm de Vologine nous dit que, effectivement, le fait de ne pas être timide dans l'étude, le fait de pousser, le fait de ne pas avoir peur de poser des questions, ou plus exactement de surmonter sa peur ou sa hantise pour poser des questions, relève une qualité essentielle de la personne et qui est nécessaire pour l'étude. C'est l'amour de la sagesse. Le fait, effectivement, que l'on pose des questions, même quand on n'en a pas trop envie, ou même quand on a peur de le faire, montre que, chez nous, l'amour de la sagesse, l'amour de l'étude, passe avant tout. Et c'est cette qualité qui nous fera progresser dans l'étude de la Torah et dans le reste, parce que, bien évidemment, la pratique de nos mitzvot et le reste de la vie est très grandement influencée par notre étude, de même que cela peut jouer dans un sens réciproque. On raconte un jour qu'il y avait un homme très riche, qui pensait qu'il pouvait acheter, n'est-ce pas, le meilleur khatan, le meilleur beau-fils, et il voulait un beau-fils qui étudie. Mais pas seulement un beau-fils qui étudie, mais un beau-fils qui soit le meilleur de tous, qui soit le meilleur dans l'étude. Et un jour, il est rentré dans une yeshiva, je crois qu'à l'époque, c'était la yeshiva où était présent le Stipeler, le Kélès Yaakov, et je crois qu'il alla directement voir le Kélès Yaakov en disant, écoute, je cherche un gendre, je veux marier ma fille, je veux le meilleur, celui qui ira le plus loin. Il se croyait un petit peu comme ça en pleine compétition, peut-être qu'il n'avait pas tort d'une certaine manière, la compétition dans l'étude peut amener de bonnes choses, en tout cas lui, il voulait un gendre qui soit meilleur dans l'étude, il était prêt à mettre le prix pour ça. Et alors, il dit au Stipeler, donc donne-moi le meilleur. Quel est le meilleur dans ce Beit Midrash? Il y avait des centaines d'élèves qui étaient là-bas, qui s'asseyaient, évidemment, on avait avec l'embarras du choix. Et le Stipeler lui dit, écoute, celui-là, au niveau des connaissances, c'est le meilleur, ce qu'on appelle la Bekiyut. Celui-là, au niveau de la compréhension et de l'approfondissement de l'étude, ce que l'on appelle le Yun, c'est lui le meilleur. Maintenant, le troisième que je vais te montrer, c'est celui qui a le plus grand amour de la sagesse. En hébreu, c'est « Ouam Vakesh ». C'est celui qui demande, c'est celui qui veut savoir. Des trois, c'est lui qui ira le plus loin. Nous dit ensuite, et le Pirkei Avot, « Lo Apkabdan Melamed ». Celui qui est coléreux ne peut pas enseigner. Alors évidemment, et ici, on parle de celui qui ne peut pas enseigner. Précédemment, on parlait de celui qui ne peut pas étudier. C'est qui celui qui est coléreux? Alors, en vérité, il y a différentes descriptions dans nos sages. Certains nous disent, effectivement, c'est celui qui s'énerve quand on lui pose des questions. Celui, en tout cas, qui n'a pas tellement de patience. Mais principalement, la flèche s'adresse ici à celui qui, même s'il est prêt à répondre aux questions qu'il lui pose, il n'est pas prêt à répéter. Parfois, effectivement, un élève a du mal à comprendre. Il peut poser une question, ne pas comprendre la réponse qui lui est posée. Alors, le maître peut revenir sur son explication une fois, deux fois, mais combien de fois devra-t-il revenir sur son explication? À un moment, il va forcément s'énerver. Le Pirkei Avot nous dit non. Il ne doit jamais s'énerver. Quelqu'un qui prend sous les responsabilités d'enseigner doit être quelqu'un qui aura une patience infinie avec ses élèves. Il doit se répéter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois si cela est nécessaire. Autrement, qu'il cherche un autre job, qu'il aille faire autre chose. Parce que celui qui, à cause de sa timidité, ne peut pas vraiment étudier ou ne pas arriver à un niveau d'études suffisant, ne se fait du mal qu'à lui. Mais celui qui, à cause de son impatience, à cause de son manque de patience, à cause de son caractère colérique, n'est pas capable d'enseigner et va finalement amener, décourager les élèves à étudier ou du moins à poser des questions, celui-là fait du mal même aux autres. Ce que nous enseigne ici le Pirkei Avot d'une manière générale, c'est la mida de la patience. L'un des commentaires dit que celui qui n'a pas la patience d'enseigner risquera non seulement effectivement de décourager les gens de l'étude, ce qui est déjà quelque chose de très grave, mais il risquera également, de par son caractère colérique, de par son manque de patience, du fait qu'il n'a pas la force d'aller jusqu'au bout, aussi bien dans l'explication, aussi parfois dans la réflexion, il risquera d'en arriver à des très grosses erreurs et à faire faire aux gens des erreurs autour de lui. Je voudrais juste raconter une petite histoire qui vaut ici la peine d'être racontée et qui montre jusqu'où le manque de patience, la colère et le fait de ne pas supporter l'autre jusqu'à où ça peut arriver. On raconte une fois justement dans un Heider, dans une école, qu'un garçon, un jeune garçon, avait amené une belle montre, une montre un petit peu mieux que toutes les autres. Et puis évidemment, tous les élèves ont commencé à la regarder. Ça passait de main en main. Un des élèves décida de regarder la montre et s'attarda un petit peu plus que les autres. Et tout de suite, le premier, qui n'avait aucune patience, dit « Où est ma montre ? Où est ma montre ?» Le garçon qui regardait la montre et qui s'apprêtait à rendre cette montre, n'osa pas. Sur le coup, il a eu peur de la rendre parce qu'il a eu peur de se faire prendre pour un voleur, tellement l'autre criait fort « Où est ma montre ? Où est ma montre ?» Il se dit « Je vais la rentrer, je vais reprendre cette montre avec moi et je vais la rendre le lendemain. Je vais la déposer sur la table de celui à qui ça appartient dans la plus grande discrétion sans que personne ne le sache. » Du coup, le père du gosse à qui appartenait la montre, apparemment les fruits ne tombent pas loin de l'arbre, n'avait pas l'air d'être tellement plus patient que son fils. Il téléphona au rébe, furieux, « Oui, où est la montre ? Où est la montre ? Je demande que demain, à la première heure, la montre soit rendue. » Le garçon arrive déjà un petit peu à l'avance pour rendre la montre discrètement. Et voilà que le rebbe arrive en disant que personne ne bouge, on va attendre que tout le monde soit là et on va faire une fouille en public. Le rebbe aussi avait l'air d'être quelqu'un de peu patient. Alors évidemment, le garçon qui s'apprêtait à rendre la montre, évidemment, décida de ne pas le rendre, mais que faire ? On va faire une fouille. On va faire une fouille. Comment s'en tirer ? Alors, n'ayant pas le choix ou croyant ne pas avoir le choix, il eut tellement peur qu'il décida de glisser la montre dans le cartable de son voisin. Et voilà qu'on découvrit, bien entendu, la montre devant tout le monde dans le cartable du voisin. Le gosse se mit à pleurer. « C'est pas moi, c'est pas moi. » Évidemment, personne n'a le cru. Le gosse s'appelait, je ne sais pas, disons Yohanan. Tout le monde commençait à l'appeler « Yohanan le voleur, Yohanan le voleur. » Et cette honte qu'il eut prit de telles proportions qu'il décida de quitter l'école. Et il alla dans une autre école. Mais déjà, sa réputation le précédait. Ah, voilà, Yohanan le voleur, Yohanan le voleur. Et ainsi de suite. Finalement, celui qui avait mis la montre dans son cartable perdit de vue jusqu'au jour où il se maria. Le jour où il décida de se marier, avant la roupa, il se mit à pleurer, à pleurer, à pleurer. Bon, des khatans, des gens qui pleurent, ça peut arriver. Mais lui, il pleurait plus que tout le monde. Jusqu'à ce qu'on lui demande ce qui se passe. Et alors, il raconta l'histoire qui lui était arrivée. Avec ce garçon, dans le cartable duquel il avait glissé la montre, il lui dit « Voilà, 2 jours avant de me marier, j'ai appris que ce garçon avait tout laissé tomber. Il avait laissé tomber la Torah, il avait laissé tomber la religion, il a quitté Israël et il est parti se marier avec une non-juive aux États-Unis. » Lui a bien compris que c'était la conséquence, lointaine, mais inévitable apparemment de ce qui s'était passé au départ. Voilà à quoi la colère, voilà à quoi le manque de patience peut amener. Et si on parle d'un acte anodin, comme l'histoire d'une montre qu'on a glissée dans le cartable d'un voisin suite à une crainte, qu'en est-il lorsque ce manque de patience, lorsque ce manque de patience a trait à l'étude de la Torah, au message que Kadosh Baruch Hu nous envoie, ici les conséquences peuvent être incalculables. Elles peuvent être inimaginables. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Nous dit ensuite donc le Pirkei Avot, Velo kol ha-marbe b'srour ha-markim. Tous ceux qui font du commerce ne deviennent pas nécessairement plus sages au niveau de l'étude. Là encore, le Pirkei Avot vient nous donner une règle essentielle, sur laquelle on va revenir d'ailleurs juste dans l'enseignement d'après, c'est que si on veut réellement progresser dans l'étude, si on veut atteindre réellement un bon niveau dans l'étude, aller au-delà de la moyenne, alors il n'y aura pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il faut que la majorité de notre temps, la majorité de notre énergie soit consacrée à l'étude de la Torah. Évidemment, cela ne veut pas dire que celui qui n'en a pas la possibilité doit se désespérer, se dire « bon, ben, j'étudierai pas, finalement, je ne consacre pas la majorité de mon temps à l'étude ». Non. Bien entendu, loin de là, chaque heure, chaque minute que l'on consacre à l'étude a une valeur en soi qui est inextricable, qui est de toute façon ne peut être mise en cause. Mais évidemment, ce que l'on nous demande ici, c'est un maximum d'efforts. Et il se peut parfois, je dis bien parfois, que celui qui n'a pas la possibilité d'étudier plus de deux heures par jour, que son étude dans laquelle il met des efforts énormes, vaille plus que celui qui étudierait 8 heures par jour, qui ne fait pas spécialement l'effort que fait le premier. Tout est possible. Quand on dit que l'essentiel doit être consacré à l'étude, cela veut dire que l'essentiel de nos efforts doivent être consacrés à l'étude. Et si, évidemment, on a la possibilité d'étudier 8 heures, 10 heures ou 12 heures par jour, alors, évidemment, on ne doit pas s'y soustraire et on doit le faire. Nous dit encore le Pirkei Avot, en tout cas cette Mishnah, dans son dernier enseignement, « Là où il n'y a pas d'homme digne de ce nom, alors sois à leur place. » Bon, évidemment, ici, la traduction est littérale. Il faut comprendre le sens. Nous dit, et le Bar Tenora nous dit, qu'en vérité, on parle ici d'un homme qui arrive dans un endroit isolé où il n'y a pas de gens qui peuvent enseigner, où il n'y a pas de gens qui peuvent donner un psaque, qui peuvent donner des instructions, et qu'il n'y a personne pour répondre aux questions que vous pouvez avoir lorsque vous avez tel ou tel problème au niveau de la halakha. Alors, nous dit le Pirkei Avot, s'il n'y a personne pour le faire à ta place, pour répondre aux questions à ta place, même si tu crois que tu n'es pas à niveau, puisqu'il n'y a personne d'autre, eh bien, fais-le. Nous disent également nos commentateurs, que cela s'applique également à celui qui étudie. Normalement, nous avons beaucoup insisté, déjà dans les Mishnah précédentes, sur le fait que l'étude doit se faire en groupe. Que pour arriver à un niveau réel d'étude, il faut apprendre d'un rav, il faut étudier avec un raver. L'étude correspond à une dynamique qu'on pourrait presque appeler une dynamique de groupe. En tout cas, elle demande l'intervention de l'autre. Mais cela ne veut pas dire, nous dit le Mishnah, le Pirkei Avot, et c'est ici aussi la signification de cet enseignement, que si on arrive dans un endroit où il n'y a personne, on se dit, je n'ai pas à étudier. Je n'ai pas à étudier puisque je n'ai personne pour étudier. Si effectivement, Akadosh Baruch Hu te met dans une situation où tu n'as personne avec qui étudier, où tu n'as pas de qui apprendre, alors apprends seul, étudie seul. Je voudrais juste vous dire à ce niveau-là que le Chazon Ish disait qu'aujourd'hui que nous avons Rashi pour nous expliquer la Gemara. Alors s'il n'y a pas le choix, Rashi aussi peut nous servir de Chaver. Il peut nous servir et de Chaver et de maître dans notre étude. Nous dit Raphaïm de Vologine, quelle que soit la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous met, il y a toujours une possibilité d'avancer, il y a toujours une possibilité de progresser, il y a toujours une possibilité d'aller plus loin.